au chapitre 2, les versets 15 à 21. Luc, chapitre 2, versets 15 à 21. Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Nous avons là quelque chose d'assez banal, en fait. C'est cette visite des bergers à un bébé qui est dans une mangeoire à Bethléem. Quelque chose de banal. Nous pensons tout de suite à toute la féerie de Noël. Mais laissons tout ça de côté, ce n'est pas dans le texte. Il faut imaginer des gens très ordinaires, des petits gens. Le berger n'était pas bien considéré dans l'époque. On donnait ce métier à ceux qu'on voulait un peu écarter de la famille. C'était arrivé au roi David. Alors voilà, ils étaient dans les champs et eux ont reçu l'annonce de ce qui va changer le monde. Et les signes qui leur sont donnés quand on réfléchit, il n'y a rien à part qu'il y a une parole de Dieu sur cet enfant qui est dans une mangeoire. Bon, c'est comme si aujourd'hui on disait, je ne sais pas, un ouvrier dans une usine au Caire ou en Égypte, à la capitale, va donc sur la déchetterie, il y a une immense déchetterie là, au Caire, à ciel ouvert, où vivent des familles pauvres, va aller dans cette déchetterie, dans une cabane où vous allez trouver dans un carton emballé dans du plastique un bébé, voilà. C'est le genre de signe qu'il leur est donné. Vous trouverez un bébé dans une mangeoire. Mais ce qui change tout, c'est qu'il y a une parole du ciel. Frères et sœurs, il y a une parole qui est venue du ciel et qui a indiqué cet événement complètement primaire, qui n'a rien d'extraordinaire, un bébé emmailloté, tous les bébés sont emmaillotés. Bon, dans une mangeoire, c'est un peu particulier. Bon, je vous ai dit, ça peut se comparer à aujourd'hui un bébé dans une déchetterie, dans un carton, avec sa maman et son papa, voilà, qui vivent de façon très modeste, voilà, qu'on a exclu, voilà. Mais la parole du ciel a changé tout le regard qu'ils ont porté sur cet enfant. Et du fait qu'ils ont cru une parole concernant un événement très banal, où il n'y a rien de spécial à voir, ils ont cru cette parole. Ça a changé leur vie. On nous dit qu'ils sont repartis avec beaucoup de joie en chantant les louanges de Dieu. Vous connaissez beaucoup de gens aujourd'hui qui chantent les louanges de Dieu. Ils sont réunis pour ça. Quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce que c'est ça? C'est un événement banal. Il n'y a rien à voir, franchement. À l'époque, les Romains ont crucifié des milliers de Juifs. Des milliers! Je n'exagère pas, nous le savons. Ce n'est pas si loin de nous, cet événement de la destruction d'Israël par les Romains. Ça date il y a 2000 ans, c'est tout proche de nous, historiquement. On a des documents, des historiens de l'époque. Jésus est passé inaperçu, complètement inaperçu, parce qu'il y avait tellement de Juifs qui étaient crucifiés. Mais ce qui change pour nous tout, c'est que une parole de Jésus, une parole des apôtres que Dieu a envoyés, que nous avons maintenant dans le Nouveau Testament, nous dit la signification de cet événement qu'on n'a même pas envie de considérer. L'apôtre, plutôt le prophète Ésaïe, qui a écrit l'évangile, le mot évangile vient du prophète Ésaïe, il a dit, on n'avait pas envie de regarder ça. Ce visage, on détournait notre regard de ce visage d'un crucifié. Mais l'événement est devenu pour nous le plus grand de tous les temps et il durera éternellement. Parce que c'est ce sang de Jésus qui a coulé sur la croix qui nous lave, qui nous sauve éternellement. C'est de là que nous recevons le Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Parce qu'il y a une parole qui est venue du ciel, qui est venue des prophètes, qui est venue des apôtres. Et Jésus lui-même a annoncé sa mort plusieurs fois et sa résurrection plusieurs fois. Il l'a annoncé et ses disciples, on nous dit dans l'Évangile, ils ne comprenaient pas. Il y a des événements de Dieu qu'on ne peut pas comprendre avant qu'ils se produisent. Et ils se sont produits. C'est pour ça qu'on nous précise dans ce texte, Marie, retenez tous ces événements. En hébreu, événement, parole, c'est le même mot. Elle retenait ces paroles, elle retenait ces événements. Parce que ça ne bouge pas tout le temps. Après, pendant 30 ans, il a vécu normalement avec ses parents. Mais pendant 30 ans, elle s'est souvenue de ça. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a 30 ans dans votre vie? On oublie beaucoup, mais ça, elle n'a pas oublié. C'est rien passé. Je vais corriger un peu ce que je dis là, mais il ne s'est rien passé jusqu'à 30 ans pour Jésus. Si vous voulez des détails sur l'enfance de Jésus, des contes de fées, etc., vous lisez les évangiles apocryphes que l'Église a rejetés. Les récits sur Jésus que nous avons, sur sa petite enfance, sont pas si magiques que nous le pensons. C'est, c'est l'ambiance de Noël aujourd'hui qui malheureusement nous enlève, nous donne des lunettes, nous met nous aveugle les yeux pour qu'on lise vraiment le texte. Il n'y a rien de féerique dans ce que nous disent les textes. Mais c'est l'essentiel qui nous est dit. Un événement banal avec une parole qui est venue du ciel, et ça change tout. La croix, un mort parmi tant d'autres morts, mais ce mort-là, ce crucifié-là, c'est le Fils de Dieu qui nous entraîne dans le royaume de Dieu. C'est la parole de Dieu qui change pour nous le regard que nous avons sur les fêtes qui nous sont racontées. Et Marie a gardé ces événements dans sa mémoire. Luc, au début de l'évangile, il dit qu'il a enquêté, lui, il est allé interroger Marie qui était encore en vie à l'époque. C'est pour ça que Luc est le seul à nous raconter plein de choses au début de son évangile sur Jean-Baptiste, qui est un cousin qui est de la famille de Marie, et sur Marie et sur l'enfant. J'ai dit qu'on ne sait rien de Jésus jusqu'à l'âge de 30 ans. Je corrige. Luc nous raconte un événement qui s'est produit à l'âge de 12 ans. Un seul événement de Jésus nous est raconté avant 30 ans. C'est ce qui s'est produit à l'âge de 12 ans. Sa mère et son père l'ont égaré dans le temple. Pendant 3 jours, ils l'ont cherché dans une angoisse extrême. Extrême. Ils l'ont trouvé au bout de 3 jours, dans le temple. Et il leur a dit, pourquoi vous êtes-vous effrayés? Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois dans la maison de mon père? Ses parents n'ont pas compris. Mais le texte nous dit, là aussi, comme ici dans notre texte avec les bergers, Marie gardait ces événements dans son cœur. Elle a gardé ce souvenir qu'à 12 ans, pour lui, c'était naturel, pour son enfant, Jésus, c'était naturel de rester dans le temple, de rester dans la présence de son Père, dans le temple. Jésus nous met en communion avec son Père. Et de quelle façon? En nous donnant simplement un petit enseignement, voilà comment il est, mon Père. Il a donné des enseignements, oui. Il est mort. Il est ressuscité pour nous donner la même relation que lui, il a avec son Père. Le texte que nous avons lu dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul qui n'a pas connu Jésus, de son vivant sur terre, mais qui nous enseigne sur Jésus, parce qu'il a reçu, lui, la vision de Jésus à la droite du Père, il a été renversé par cette vision et toute sa vie, il était au service de cette vision. Jésus lui a dit, tu vas être mon serviteur et tu vas être témoin de cette vision que je t'ai donnée à toi, exceptionnellement. Parce que normalement, toutes les visions du ressuscité étaient terminées. Et Shaoul, qui persécutait les chrétiens, il a eu la vision du ressuscité. Il a été toute sa vie au service de cette vision. Au service, ça veut dire de faire connaître Jésus. Jusqu'à être persécuté comme Jésus et être lui-même tué comme Jésus. Mais il a été au service de la vision de la gloire de Jésus. Et il nous dit, dans l'Épître aux Galates que nous avons écouté, Dieu nous a fait naître de lui-même. Et c'est ce qui est dit, Dieu nous a donné la filiation qui caractérise Jésus. Cette filiation, Dieu nous l'a donnée. Il nous a fait naître de lui. Et puisque nous sommes nés de Dieu, et l'apôtre Paul dit, toujours dans Galates, et il a, à cause de ça, il a mis en nous l'esprit de son Fils. Qui crie en nous, Abba, Père. Le Saint-Esprit est appelé ici, c'est très rare, c'est très rare. Paul l'appelle, c'est l'Esprit de mon Fils. Dieu dit, c'est l'Esprit de mon Fils que j'ai mis en vous. L'Esprit de mon Fils. Le Saint-Esprit, toute la vie de Jésus, c'est lui qui a, qui a conçu Jésus dans le sein de la Vierge Marie, et ce Saint-Esprit était sur Jésus, en permanence, tout ce que Jésus a fait, il l'a fait par le Saint-Esprit en relation avec son Père, parce que sinon il ne pouvait pas faire tous les miracles extraordinaires qu'il a fait. Et bien ce Saint-Esprit-là, qui était la relation de Jésus avec son Père, ce Saint-Esprit-là, il est en nous. C'est Dieu qui a fait ça. Nous avons écouté au début de ce culte le psaume 67. Que Dieu nous bénisse, dit Israël, que Dieu nous garde, que Dieu nous fasse grâce. Et les rabbins disent, quand Israël demande à Dieu, fais-nous grâce. Il demande à Dieu, donne-nous la connaissance de qui tu es. Et c'est vrai, les rabbins ont raison, puisque le psaume nous dit, fais-nous grâce, et immédiatement après, ainsi l'on connaîtra sur la terre ton chemin, parmi toutes les nations, ton salut. Connaître. Connaître Dieu. Connaître comment il est sauveur. Ça dépend que Dieu nous fasse grâce pour cette connaissance. Nous ne connaissons pas Dieu. Tout ce que nous savons sur Dieu par nous-mêmes, c'est faux. C'est simple, c'est faux. C'est faux. Israël nous enseigne à demander à Dieu. Fais-nous grâce pour que nous te connaissions, que nous connaissions la façon dont tu agis, la façon dont tu es sauveur. Que toute la terre connaisse cela. Fais-nous cette grâce de te connaître. Et pourquoi c'est faux? Parce que nous ne connaissons pas Dieu avec un visage. Les dieux que nous imaginons, auxquels nous pensons par nous-mêmes, même avec beaucoup de philosophie, de pensée merveilleuse, ce n'est pas un Dieu avec un visage. C'est une projection de nous-mêmes. Nous sommes pécheurs, nous imaginons un Dieu qui est le contraire de nous, qui serait bon, qui serait saint, et nous, on est pécheurs et mauvais. Voilà, on imagine un Dieu comme étant... Le Dieu que nous imaginons, c'est toujours quelque chose que nous imaginons à partir de nous-mêmes. Or, la Bible nous parle d'un Dieu qui a un visage. Ça, c'est ça qui fait toute la différence. Un visage, ça veut dire qu'il y a une personne en face. Quand je suis face à un visage, je suis face à une personne. Dieu n'est pas une puissance. Dieu n'est pas de la pensée pure. Je dirais même, il n'est pas esprit. Je suis en contradiction avec une parole de la Bible, je le sais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la pensée grecque, la pensée philosophique, nous pensons que Dieu ne peut pas nous rencontrer dans la chair. Or Dieu est esprit. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui nous ont dit que Dieu est esprit dans la Bible, nous ont aussi dit la chair du Christ, les paroles du Christ sont esprit. Nous allons rencontrer Dieu dans le pain et le vin. Ce n'est pas symbolique. Nous allons prier que le Saint-Esprit fasse de ce pain la chair du Christ pour nous, qu'il fasse de ce vin le sang du Christ. Nous rencontrons Dieu dans la chair, dans le corps du Christ. Et j'ai envie de dire ce que la Bible, le Dieu que nous révèle la Bible, c'est un Dieu donc avec un visage, une personne, un Père. Un Père. Car quand dans la bénédiction, nous entendons que Dieu fasse briller son visage. Et comment est-ce que votre visage brille? Quand est-ce que le visage d'un père est lumineux, rayonnant, quand il regarde son enfant, son bébé? Voilà comment Dieu nous regarde, comme un père. Il est un père physiquement spirituel. Amen.